Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto-monnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto-monnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissance et en compétence semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans Crypto Facto, je suis très content de vous retrouver pour un point de marché. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce genre d'émission, tout simplement parce que on a été beaucoup bougé, j'avais annoncé qu'on allait être bougé, j'étais intervenu lorsque on avait commencé à baisser, que ça commençait à faire mal au portefeuille, mais en soi la stratégie de la chaîne et du podcast et la mienne du coup n'a pas changé, alors j'ai préféré ne tout simplement pas intervenir pour ne pas commencer à marteler des grands préceptes que j'estime devoir être suivi par le plus grand nombre, parce que non, je ne suis pas un gourou et je ne veux pas l'être. Alors voilà, j'ai préféré rester très discret et maintenant on voit un potentiel rebond et pourquoi pas plutôt une latéralisation dans un moment où le marché a eu besoin de respirer, il a besoin de se poser des questions et peut-être qu'on a besoin aussi de structurer un tout petit peu. Donc, faisons le point sur la situation. Nous sommes au moment où j'enregistre cet épisode, la soirée du 5 mais 2024, il est environ 20h, donc comme ça vous savez un petit peu où on en est. Si ça bouge d'ici au moment où vous écoutez cet épisode, vous saurez où reprendre le fil. Nous avons vécu une correction qui est modérément violente sur le marché, ça fait vraiment mal au portefeuille, mais en soi, ça ne remet rien en cause de tout ce qu'on a préparé depuis maintenant plusieurs années pour certaines personnes, en préparation de ce bullrun qui a peut-être commencé. Qui a carrément commencé, hein, on peut en être assez sûr, mais on est encore dans une phase très très early du bull run. Ça veut pas dire que des performances n'ont pas déjà été enregistrées et que des profits n'ont pas déjà été faits. Je vous propose le programme suivant pour ce point de marché. J'ouvre directement avec un rapide gauche-droite sur Bitcoin, Ethereum et des altcoins qu'on pourrait considérer comme des opportunités. Vous le savez, j'ai un biais pour les projets que je suis. Je ne suis pas tous les projets. Je ne suis rémunéré pour aucun de ceux-ci. Donc voilà, je fais à peu près ce que je veux et je dis à peu près ce que je veux par rapport à eux. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas et il y en a que je suis prêt à recharger et d'autres pas. Ok, donc ce sera le gros de ce point. Puis on parlera rapidement de CZ, l'ancien président de Binance aux États-Unis, qui a été condamné. Donc on va pouvoir juste brièvement parler de ça. Et puis, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, ça va être la transformation future de la société Tether, qui est donc en charge notamment de l'USDT, que personnellement j'utilise régulièrement. Et il se trouve que ouais, c'est très prometteur ce qu'ils nous font. À un moment, ils sont peut-être menacés dans leur activité d'émetteur de stablecoin. Alors là, j'en parle un tout petit peu à la fin. Donc, trêve de bavardage, zoomons un tout petit peu sur Bitcoin ETH. Comme d'habitude, dans les émissions du point, il y a du clic, il y a un petit peu de tout, c'est complètement normal. Alors, si je reprends un petit peu mes graphiques, on va zoomer sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, on a vu en très peu de temps, en moins d'une semaine, on est passé de environ 64 000 dollars à en dessous de 57 000 dollars. Donc, ça fait quand même un gros crash si on n'a pas l'habitude et si on a acheté à partir de 60 000 dollars, ça fait peur. Mais il se trouve que si Bitcoin a fait cette contre-performance, quand même, il faut dire que derrière, il y a des altcoins qui ont dû en prendre encore plus plein la tronche. Si on dézoome encore et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le mois écoulé, on était quasiment à 72 000 dollars. C'est quand on regarde dans cette optique-là qu'on voit à quel point la chute a pu être relativement violente et qu'on voit aussi pourquoi il y a des altcoins qui ont trinqué comme pas possible. Il semblerait qu'on a un rebond ou en tout cas une forme de latéralisation. Peut-être qu'on va faire un range intéressant pendant quelques semaines, quelques mois sur Bitcoin. À voir. Personnellement, moi je suis pas du tout en phase d'achat sur Bitcoin, ça a été fait bien avant. Par contre, sur les altcoins, là il y a peut-être quelque chose à faire. Il est clair que Si vous n'avez pas du tout de Bitcoin en portefeuille et que c'est votre objectif de constituer une ligne, eh ben ce genre de retracement, ça peut être opportun pour commencer un petit peu. Et il y aura d'autres occasions plus tard dans le feu du bull run où vous allez certainement prendre des bénéfices, des gros bénéfices peut-être sur des altcoins et que vous aurez envie de repasser une partie en Bitcoin parce que au moment où le marché s'effondrera, Bitcoin s'effondrera manifestement moins que ses autres projets. Donc voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, moins 4% sur le mois à peu près sur Bitcoin, mais sur une semaine on est à plus 1,2%, donc c'est pas si mal. Pour Ethereum, ça se passe un tout petit peu moins bien, on était presque à 3007 au début du mois, on se retrouve, enfin au début du mois, je dis n'importe quoi, ouais, le 9 avril, et puis maintenant, voilà, on se retrouve au mois de mai, début mai, où on est allé visiter en dessous des 3000$. Peut-être que là, ça a été une opportunité intéressante hein, pour Ethereum, qui avait pas performé autant que le Bitcoin. C'était une opportunité peut-être, moi je l'attendais plus bas personnellement, alors vous savez si vous avez écouté mon épisode où je vous parlais de mon top 5 pour le deuxième trimestre, mais par contre c'est vrai que j'avais mis un ordre stop un peu plus bas, je l'avais mis autour des 2006, c'est jamais descendu, tant pis pour moi, c'est pas grave et j'ai pas de regrets, j'en avais accumulé avant, j'aurais bien voulu recharger sur ce genre de niveau. Maintenant je dois avouer que ces liquidités-là que j'avais prévues, je les ai investi dans autre chose, j'en parle tout à l'heure, mais là je suis gentiment à sec en termes de liquidité et voilà, si le marché latéralise énormément pendant les mois qui viennent, il n'est pas impossible que mensuellement je rajoute quelques centaines de dollars par-ci par-là, si mon porte-monnaie me le permet tout simplement, parce que ça peut être aussi un bon moment d'investir, un moment où on est plutôt en phase de récupération et de rebond. Voilà. Donc ça c'est dit pour Bitcoin et Ethereum. Maintenant ce qui a intéressé le plus grand monde je pense sur ce podcast, ça va être les projets que je suis et qui ont peut-être été un peu massacrés. Alors il y en a un dont j'ai envie de vous parler, que j'ai pas rechargé parce que j'en ai déjà pas mal, mais c'est STX, c'est Stax. Stax qui est donc une forme de Layer 2 mais en Proof of Stake sur Bitcoin, qui sont en train d'essayer de développer justement toute la programmation, mais sur Bitcoin, ou programmabilité plutôt, avec des smart contracts, sur la blockchain la plus résiliente, la plus sécurisée au monde. Et puis donc Stax, alors sur l'année ça fait une super performance, hein, Stax c'est vraiment incroyable, on était à un moment donné à vers 0,4 dollars, et puis on est monté au-dessus des 3,50, donc ça fait une jolie performance. Maintenant là on se retrouve plutôt aux alentours des 2 dollars, on est à 2,30 au moment où je vous parle, mais il se trouve que sur le mois Stax y prend moins 21,8%. Ça veut dire qu'il y a peut-être une opportunité ici à aller chercher lorsqu'on considère un petit peu toute la baisse qu'il a pu avoir. Il n'a pas encore rebondi pleinement. À titre personnel, j'en ai pas besoin dans mon portefeuille. En plus, en tout cas, pas j'en ai déjà. Mais je considère que ça peut être une occasion pour des gens qui ont envie de compléter une ligne ou d'en constituer une. On a vu aussi un super rebond sur RNDR. Là non plus, j'en avais pas repris. Je l'attendais plus bas, tout comme Ethereum. Mais RNDR, que je le retrouve, attendez, hop là. Tac, RNDR. Le voilà, RNDR, alors qu'il allait toucher à peu près les 7 dollars, alors qu'il était à son plus haut au-dessus des 12, il y avait peut-être là une opportunité, une fenêtre de tir, mais quand moi je les ai achetés proche des 1 dollar, franchement, j'avais pas spécialement envie d'en racheter à ces cours-là. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres poissons dans le lac ou dans la mer. C'est pas forcément un projet que moi j'avais envie de prendre. Par contre, c'est un super projet, RNDR. Si vous ne savez pas ce que c'est, vraiment, allez voir le dossier dédié, tout comme Stax d'ailleurs. Tout ce que je vous propose aujourd'hui sont selon moi des très beaux projets. Par contre, ils ont quand même des aspects spéculatifs sur des narratifs. Stax, c'est des layers de Bitcoin. Voilà le narratif. On peut y croire comme on peut ne pas y croire. Ça peut prendre comme ça ne peut pas prendre. RNDR, on est sur tout ce qui est GPU décentralisé. Donc on va être aussi dans l'IA. On va aussi être dans tout ce qui est puissance de calcul nécessaire pour générer quelque chose. Donc pour faire du rendering, tout simplement. Et ça, là, alors je pense qu'il y a un vrai, vrai gros business là derrière. Mais est-ce que RNDR, qui semble être le leader là-dedans, pour l'instant sur ce bull run. Est-ce qu'il sera le leader final? Ça, on n'en sait rien. Donc voilà, il y a quand même ici quelques précautions à avoir si vous voulez vous repositionner. Sachant quand même que là, il est bien remonté. Moi, j'achèterai pas personnellement sur ces cours-là. Après, chacun fait comme il veut. Je prends maintenant un dossier dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, RSR. RSR qui refait une petite remontée, Reserve Right Token. Là, encore une fois, je vous avais dit qu'on n'est pas sur un token purement spéculatif, parce que il va pas y avoir une hype qui va se monter sur ce projet normalement. C'est pas le but. On essaie de construire quelque chose d'autre avec une forme de une forme de croyance dans un marché qui serait entièrement fait par les utilisateurs. Et ça, bah, ma foi, si on veut absolument que le marché soit complètement fait par les utilisateurs, on n'a pas le droit de trop intervenir et de trop marketer le jeton. Donc moi, j'en avais pris un tout petit peu, mais c'était pour tester, voir comment ça marchait. J'ai pas encore eu le temps de le faire, j'ai pris les jetons et puis je m'en suis allé tout simplement. Mais ce sera fait, puis quand j'en saurai plus, je referai bien évidemment un point sur ça. Mais voilà, j'avais quand même envie de noter la belle performance mensuelle de RSR, hebdomadaire, qui fait plus 21%, mais qui avait pris une telle dégelée que voilà, faut quand même y aller avec beaucoup de pincettes. Si vous avez vraiment 0$ à perdre ou à gambler, je mettrai peut-être pas beaucoup d'argent sur RSR. Et c'est pas principal dans votre portfolio. Si vous avez pas envie d'y passer trop de temps, RSR, vous l'oubliez tout simplement. C'est pas utile pour vous. Maintenant, dans les projets que j'ai renforcés, j'ai pas pu résister. Atom, mon dieu, Atom encore et toujours. Atom qui réagit super bien là maintenant. On était descendu sous les 8$. Pour moi, c'était vraiment une opportunité à recharger, parce que Atom, j'y crois énormément. C'est un narratif de très important qui est donc l'interopérabilité, qui pour moi, comment dire, est toujours aujourd'hui dominé par Atom. Je vous ai présenté CKB la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais il se trouve que le king, de mon point de vue, c'est Atom. Il y a Polkadot qui est pas loin, mais je suis pas sûr que Polkadot soit aussi user-friendly et simple d'utilisation, tout simplement, que l'univers Cosmos. C'est pour ça que je parie aussi beaucoup dans l'Atom. Et là, on voit, il a déjà fait une superbe performance cette semaine. Il a pris plus de 11%. Donc c'est magnifique. Moi, tout simplement, là, je me régale. Je l'ai acheté au bon moment. Je suis très content. Et en lien avec Atom, j'ai aussi parié sur un autre player qui est très rentable, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir dans mon portefeuille des projets qui sont rentables, des projets qui n'ont rien à demander à personne à partir du moment où ils sont fonctionnels. Ça me va. Et là, je vais dans le domaine de la DeFi. Je vais sur un projet qui a une grosse TVL. Je vais sur un projet qui était dans mon top 5 des projets à surveiller. AV. J'ai rechargé du AV ces derniers temps. On n'a pas fait de gros mouvements sur AV parce que finalement, c'est un projet qui va être relativement stable, mais à mon avis, il va aller s'installer à des niveaux de valorisation beaucoup plus importants une fois que le bullrun sera véritablement lancé dans tous les secteurs et qu'on aura eu surtout une altcoin season, parce que début de bullrun, il y a certainement eu, mais altcoin season, pour moi, pas vraiment. On a suivi un peu le Bitcoin, mais on n'a pas forcément eu des altcoins qui ont vraiment été dans tous les sens en mode fête du slip. Voilà. Donc j'ai rechargé du Atom, je continue d'accumuler du Atom et du AV. Si vous connaissez pas AV, je vous ai aussi fait un dossier sur AV, vous irez regarder. J'espère que ça vous intéressera. Je vais terminer donc ce gauche-droite sur les cryptos qui m'intéressent. Je reviens sur peut-être le trio FET, AGX et puis Ocean. On sait qu'il va y avoir une fusion, elle a été acceptée, on sait que c'est pour tout bientôt. Maintenant, moi j'ai pas de garantie, il se trouve que j'ai pas mal de jetons déjà dans l'IA, je suis vraiment tenté de recharger encore, mais voilà, comme j'ai pas eu de liquidité infinie, je l'ai joué un petit peu safe avec Atom et avec AV, parce que on ne sait pas finalement si FET, AGX et Ocean, leur fusion, ça va être un gros bide. Il y a quand même un risque et qui est systémique pour les trois projets. Alors, on fait un petit peu attention de ce côté-là. Et ouais, je me suis tâté. Franchement, je dois être honnête avec vous, j'ai eu le doigt sur la gâchette, mais je n'ai rien fait finalement. Pourtant, je pense qu'il y avait une opportunité. Il y avait peut-être quelque chose à jouer. On était monté au-dessus des 3$. Sur FED, par exemple, on était tombé en dessous des 2$. voilà, on perd 33%, c'est toujours intéressant, peut-être pour recharger si c'est un beau projet. Voilà, chacun prend ses décisions, chacun prend ses responsabilités. J'ai pris les miennes en prenant du Atom, du AV, et j'en suis content. Je passe maintenant au deuxième volet qui sera beaucoup plus court, deuxième volet de ce point de marché. On va parler de CZ, qui est donc l'ancien dirigeant de Binance et qui a, ouais, lui qui a été un petit peu rudoyé par la Fed, qui a été aussi par la SEC, excusez-moi, donc le gendarme des marchés aux États-Unis. Et il se trouve que lui, on sait qu'il a déjà payé des indemnités qui se chiffrent en milliards de dollars, et il se trouve qu'il va faire de la prison. Son jugement a été rendu, il fera 4 mois de prison, et à ce jugement-là et cette décision-là, j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de réactions, et il se trouve que, pour moi, c'est pas à nous qui suivons l'affaire, certes, mais qui n'avons pas toutes les cartes en main, de juger si ces 4 mois, c'est justifié ou injustifié. D'un autre côté, on a eu un Sam Bankman-Fried qui a pris 25 ans, je crois. J'ai allé vérifier cette information, j'en suis plus sûr. J'ai pas le nez dessus toujours. Et franchement, moi, grosso modo, les potins, c'est pas trop mon fond de commerce. Mais voilà, il se trouve qu'il a été jugé parce qu'il y avait une véritable volonté de tromper et puis un véritable détournement de fonds. Et c'était très grave. Par contre, pour CZ, alors il y a sûrement de l'opacité, il y a sûrement quelque chose de pas net. Mais il y a peut-être pas le côté bande organisée. Comme ça a été le cas du côté de Sam Bankman-Fried. Maintenant, encore une fois, c'est un avis, j'ai pas de sympathie pour CZ, ni de l'admiration pour lui. C'est pas à nous de trancher de la peine qui doit lui être infligée, il y a des instances dédiées pour ça. Pour l'instant, la décision, c'est 4 mois. Eh ben, ce sera 4 mois, et on verra après, peut-être que CZ aura plein de choses à amener à l'écosystème crypto par d'autres canaux, et peut-être qu'on le reverra, et ce sera aussi pour quelque chose de positif. Donc ne l'enterrons peut-être pas trop vite, et puis l'avenir nous dira ce qu'il en est. Dernier point que j'ai envie d'aborder dans cet épisode aujourd'hui, c'est la société Tether. La société Tether qui est donc responsable de l'USDT, dont je vous ai parlé en long, en large, en travers ces dernières semaines pour plein de raisons. Mais ce qu'on apprend, on a appris ça il y a 2 semaines en vrai, hein, mais j'avais pas forcément creusé, j'ai pas fait de point, tout simplement entre deux. Donc il y a plein de choses à dire. Première chose, la société Tether, c'est une machine à fric incroyable. Le premier trimestre de 2024, attendez, je prends juste un article pour vérifier les chiffres, a vu donc la société enregistrer 4,52 milliards de dollars en bénéfices nets. En bénéfices nets, c'est la folie furieuse. Ça veut dire qu'on a quand même presque 20 milliards sur une année qui tombe simplement parce que la société, elle a un business model qui déchire, dans le sens où elle émet des stablecoins, et puis avec l'argent qui est gardé en custody au cas où vous voulez échanger vos USDT en vrais dollars, c'est qui est trébuchant et sonnant, eh ben vous allez, enfin la société Tether va simplement placer cet argent avec des rendements qui vont lui être reversés. Et voilà, quoi, c'est vraiment une machine à fric qui va leur permettre après de développer d'autres axes à leur business. Et il se trouve qu'ils ont déclaré que Tether allait se réorganiser en 4 divisions et allait s'étendre au-delà de son travail autour des stablecoins. Je pense que c'est une bonne idée, vraiment. Ils ont des bonnes idées en soi, hein. Et puis, ils vont diviser donc en 4 départements. Le département data, donc les données. Le département finance, qui là s'occupera toujours des stablecoins et restera purement dans l'écosystème crypto. Le power, donc c'est donc l'énergie et l'éducation. Alors on a vraiment plein de promesses qui viennent de la part de Tether et l'USDT. C'est peut-être aussi bien de pivoter maintenant, parce qu'il y a quand même un risque sur les stablecoins, c'est qu'un jour ils aient plus vraiment d'utilité si ça devient extrêmement facile, par exemple avec vos banques traditionnelles, de passer d'une monnaie fiat à un actif crypto-monnaie, quoi, tout simplement. Si je peux passer directement par ma banque avec des frais, ou une néobanque, hein, avec des frais ridicules, d'un dollar, mais un vrai dollar, vers du Bitcoin ou de l'Ether ou que sais-je, de l'Atom, eh ben je me retrouve avec un besoin en USDT qui est nul. Donc si on arrive vers ce genre de modèle, si les États effectivement chargent leur banque centrale notamment d'offrir ce genre de service, eh ben il y a fort à parier qu'on n'aura plus besoin en fait de la solution apportée par les stablecoins. On n'en est pas là du tout, hein, mais ça reste un risque quand même qui plane au-dessus des sociétés qui émettent des stablecoins. Alors si je zoome très rapidement sur ce qu'ils vont faire, d'après ce qu'ils nous disent, le département data va se charger des investissements stratégiques dans des technologies qui incluent notamment l'intelligence artificielle. Donc on veut vraiment essayer d'avoir une mainmise sur les départements clés et puis avoir des investissements qui vont directement là où il y aura le plus de performance. Le département finance va couvrir tout simplement le stablecoin USDT, comme je vous l'ai dit. Il a une market cap quand même de plus de 100 milliards de dollars, et c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Le troisième département, qui est donc celui dédié à l'énergie, ici est vraiment concentré sur l'idée qu'il faut investir massivement dans des solutions d'énergie qui permettront de miner du Bitcoin de manière efficace, moins coûteuse, si possible vert, donc de l'énergie verte, voire carbone négatif. Et voilà, c'est très important en fait que des sociétés avec des moyens développent ce genre de projet. Et finalement, on aura le quatrième volet, éducation. Là, on ne sait rien de plus sur ce que va faire la société Tether. J'en ai terminé pour l'épisode de cette semaine, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai pas mal blablaté, j'espère que ça aura été tout de même profitable pour vous. L'occasion des points de marché, c'est vraiment de m'exprimer de manière totalement non scriptée, ça veut dire que c'est préparé, je sais de quoi je vais vous parler, mais par contre, j'ai pas forcément besoin de vous construire un discours pour vous expliquer quoi que ce soit. Le but, c'est de pointer certains éléments, de dire ce qui m'intéresse à un instant T, ce qui m'intéresse moins, et voilà, vous préparer mentalement quand même à rester serein, même dans les corrections de marché. Le moment où je m'exciterai à vendre, vous le saurez. Vous le saurez, et vous le saurez parce que j'essaie d'avoir de la transparence à travers ce podcast, et j'espère que ce sera utile au plus grand nombre. C'est pour ça que je le fais, en fait, ce podcast. Il est utile à moi, mais il doit être utile à d'autres aussi, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de partager sa connaissance. Je pense qu'il y aura... Enfin, ça a beaucoup de valeur, en fait, de s'exposer un petit peu, de se faire critiquer, de prendre la mesure de la critique, de savoir ce qui est bien fondé dans ce qu'on nous dit, et d'essayer de construire en partant de là. Donc voilà, j'espère que tout ça résonne un petit peu en vous, ou qu'un aspect, une minute de cet épisode résonne en vous et vous fasse réfléchir, tout simplement. En attendant un prochain épisode de Crypto Facto, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, peu importe, un bon appétit, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Ciao ciao! Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts, laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de Crypto Facto, prenez soin de vous et à bientôt.